Merci. On posera les questions après. Donc on reste dans les milieux de riche biodiversité. Après les zones humides, on va parler des ripisylves, des forêts le long des rivières. Et nous nous réjouissons d'accueillir Mélanie Dajou de la Fédération nationale de l'environnement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, avec une équipe, a voulu créer un outil pour mesurer donc l'intérêt de la biodiversité potentielle plutôt de tronçons de rivières. Elle s'est rapprochée de personnes, notamment du CNPF, qui avaient travaillé sur l'indice de biodiversité. Alors, c'est pas le IBP de potentiel, hein, pour des peuplements forestiers. Et donc, ils ont un peu, enfin, elle va vous expliquer, ils ont, partant de là, ils ont inventé un outil, hein, dont elle est très fière.
Donc voilà, je suis Mélanie Dajou, je travaille à la à France Nature Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, la fédération des associations de protection de l'environnement sur la région Rhône-Alpes. Et donc voilà, comme cela a été expliqué, on a réalisé un indice pour évaluer la biodiversité et la connectivité des ripisylves avec le CNPF et l'INRAE en partenaire technique. Et puis, donc c'est un indice qui a vu le jour dans le cadre d'un appel à projet de l'Agence de l'eau, eau et biodiversité, donc financé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, l'ADREAL, la DRAF, la CNR et la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est moi qui passe. C'est très sensible. Okay. Donc je vais rapidement vous présenter à la fois le contexte de la réalisation de cet indice, ses objectifs et les suites qui sont données. Donc c'est un travail qu'on a initié en 2017, ça faisait des années qu'à FNE Auvergne-Rhône-Alpes on souhaitait travailler sur les ripisylves, particulièrement parce que c'est des milieux qui sont complètement méconnus. Je ne sais pas si vous avez fait le test en dehors de votre entourage de scientifiques travaillant sur l'eau ou les forêts, mais quand vous parlez de ripisylves, personne ne sait ce que c'est. En plus de ça, on a des définitions qui divergent en fonction des thématiques. Il y a les ripisylves, les forêts riveraines, les forêts rivulaires, les forêts alluviales, tout ça pour bien complexifier. C'est des milieux qui subissent des menaces constantes, qui ont été particulièrement dégradés par l'urbanisation, par le développement de l'agriculture, qui sont dégradés actuellement par les espèces exotiques envahissantes, par les coupes rases. Donc la photo que vous voyez à gauche, ça c'est une belle ripisylve qu'on voudrait voir un petit peu tout le temps. Bah, celle que vous voyez à droite, recouverte d'espèces exotiques envahissantes, corsetée parmi les habitations, c'est celle qu'on a quand même plus l'habitude de voir, avec des cordons rivulaires qui doivent faire 1 à 2 mètres de large maximum. Alors que c'est des milieux qui ont des rôles bénéfiques qui sont indispensables, qu'on ne va pas développer ici, ce n'est pas l'objectif. Puis j'imagine que vous les connaissez déjà tous. Donc l'objectif de ce projet, en partenariat donc avec les deux organismes experts, c'était de créer une boîte à outils complète pour évaluer et préserver la biodiversité des ripisylves. Donc on a créé un indice sur une base méthodologique simple que vous devez déjà bien connaître puisqu'il s'agit de l'indice de biodiversité potentielle qui a été créé par le CNPF. Et donc voilà, qui est un outil qui nous a tout de suite séduit parce que c'est un outil très simple et on voulait également créer cet outil très simple principalement pour les gestionnaires de milieux aquatiques qui gèrent les cours d'eau, la problématique inondation, qualité de l'eau, quantité, et qui avaient des fois du mal à prendre en compte l'environnement ripisylve à côté du cours d'eau et surtout la manière de gérer cette biodiversité importante. Mais c'est également un outil qui va pouvoir être utilisé par les gestionnaires et les propriétaires forestiers, par les associations de protection de la nature et de l'environnement, à tout un tas d'acteurs. Et l'objectif de cet outil, c'est de participer et de prioriser les éléments qui vont servir à l'élaboration des plans de gestion des ripisylves qui sont réalisés par les gestionnaires de milieux aquatiques. Et donc, dans cette boîte à outils, on retrouve aussi des conseils pratiques pour préserver la biodiversité des ripisylves en général. Notre outil, il s'applique spécifiquement pour les ripisylves des petits et des moyens cours d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utilisé le long des fleuves, par exemple, ou des grosses rivières, mais c'est que pour ces milieux-là, bah souvent, c'est quand même des milieux qui souvent font l'objet de mesures de protection assez importantes, qui peuvent être placées en réserve naturelle, donc qui vont bénéficier d'un conservateur sur place, avec quand même plus de... avec des outils à disposition. Et souvent, bah, les petits et les moyens cours d'eau sont souvent délaissés dans la gestion de la biodiversité en tant que telle. Donc c'était principalement pour ces milieux-là qu'on voulait créer l'IBC ripisylve, d'autant plus que pour les forêts alluviales, qui sont le long des grands cours d'eau, l'indice de biodiversité potentielle du CNPF peut parfaitement s'appliquer. Donc c'est vraiment un complément à l'IBP. L'indice s'applique sur le linéaire des ripisylves des berges de cours d'eau. Donc on est vraiment sur la berge, le milieu qui est principalement inondé par les crues en lien avec la nappe phréatique et donc qui constitue la ripisylve. Parce que je ne vous ai pas donné notre définition de la ripisylve, mais on s'est inspiré de la définition de Hervé Piéguet, qui considère que la ripisylve, c'est l'ensemble des espèces végétales, principalement ligneuses, c'est-à-dire les arbres, qui vont se développer sur les bords des cours d'eau, et qui vont, donc ces boisements, cette végétation, va être influencée par les crues et la nappe phréatique. Voilà la définition que nous, on avait retenue. Et donc, notre outil, tout comme l'IBP, il va évaluer la capacité d'accueil de la ripisylve pour la biodiversité ordinaire. Donc en fait, c'est tout un tas d'indicateurs indirects qu'on va exploiter. Et ça, c'est l'avantage. Ça présente l'avantage de ne pas avoir besoin d'être un naturaliste pour évaluer la biodiversité qui est présente, mais juste de repérer les éléments qui vont pouvoir accueillir la biodiversité. Et comme on sait maintenant qu'une fois que l'habitat est restauré, bah, la biodiversité a tendance à revenir, on a décidé de ne pas aller dans le détail de cette biodiversité. On est vraiment dans un outil qui va servir à prioriser. Donc de quoi se compose notre indice de biodiversité et de connectivité des ripisylves ? Il y a 15 facteurs qui vont être évalués, va y avoir un score par facteur qui va être déterminé. Ces facteurs rassemblés par thématique, ça va constituer des blocs de facteurs où il y aura une note à chaque fois sur ces blocs de facteurs et aussi une note générale sur 100, contrairement à l'IBP qui donne une note sur 50. Et il y aura également des commentaires et des remarques qualitatives qui seront apportées. Donc, la zone de relevé sur laquelle on effectue l'évaluation, elle se fait sur 500 mètres de long et sur 10 mètres de large. Au-delà des 10 mètres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on part du principe que l'indice de biodiversité potentielle du CNPF peut être utilisé pour évaluer ce qui devient la forêt alluviale. Une évaluation se fait sur une rive. Pour avoir une évaluation correcte, on considère qu'il est important de faire et la rive droite et la rive gauche. Ça constitue un tronçon. C'est important de différencier les deux rives parce qu'en fait, des fois, sur des cours d'eau, on va se retrouver avec une ripisylve qui ne va être que d'un côté, de manière naturelle, parce que de l'autre, il y aura une falaise. Et ça n'empêche pas de pouvoir évaluer la rive sur laquelle la ripisylve s'est développée. Donc, comme je vous le disais, il y a des blocs de facteurs qui sont réunis par thématique. Donc, il y a la thématique peuplement et gestion, sur lesquelles les gestionnaires vont pouvoir avoir une influence directe. Il y a les thématiques de contexte, où là, bah, ce sera un peu plus difficile d'intervenir pour le gestionnaire, parce que ça va être, est-ce que ma ripisylve, elle appartient à une forêt ancienne, par exemple, c'est-à-dire une forêt qui a plus de 150 ans. Bon, bah, ça, on peut pas faire grand-chose, hein, si elle appartient pas à une forêt ancienne. Les facteurs qui vont être liés aux perturbations, donc ça c'est un élément nouveau par rapport à l'IBP, où là on intègre les perturbations de la ripisylve, la présence d'espèces exotiques envahissantes par exemple, et le gros facteur de connectivité, parce qu'on sait que plus les milieux sont connectés, plus ça va favoriser une biodiversité qui est riche. Des secteurs sous cloche qui n'ont aucune relation entre eux seront moins riches en biodiversité. La connexion produit de la biodiversité avec ces échanges. Alors, par exemple, les facteurs qui sont liés au peuplement et à la gestion. On va regarder quels sont les ligneux autochtones qui sont caractéristiques, s'il y a plusieurs strates de végétation différentes, s'il y a du bois mort sur pied, au sol, des gros bois et des très gros bois vivants, s'il y a des arbres vivants porteurs de dendromicrohabitats. Les dendromicrohabitats, c'est tous les petits microhabitats qu'on peut retrouver dans les arbres, par exemple de l'écorce décollée qui va favoriser la présence de chauves-souris sous cette écorce, ou des trous de pique, tous ces milieux qui vont favoriser la biodiversité. Et puis la présence d'abris racinaires aquatiques, qui sont eux vraiment caractéristiques des ripisylves, avec les racines des saules et des aulnes qui vont constituer des habitats très intéressants, à la fois pour la faune piscicole, mais aussi tout un tas de petits micro-mammifères. Ensuite, on a les facteurs qui sont liés au contexte. Donc, je vous ai parlé de la continuité temporelle de l'état boisé. C'est est-ce que ma ripisylve appartient à une forêt ancienne ou pas ? La présence de milieux aquatiques qui vont être complémentaires au cours d'eau, par exemple. Est-ce que sur le cours d'eau que je suis, par exemple, va y avoir une confluence avec un autre cours d'eau ? Ou est-ce qu'il y a la présence d'une toute petite mare juste à côté, d'une tourbière ou un autre milieu aquatique intéressant ? Également la présence de milieux minéraux annexes, donc est-ce qu'il y a des falaises, des grottes, et puis donc des éléments vraiment caractéristiques des ripisylves, comme les affleurements de bancs de galets ou les plages de dépôts de sédiments fins qui vont être très prisées des espèces qui vont nicher directement dans les petits graviers, comme les sternes ou autres. Et puis on a les facteurs qui sont liés aux perturbations du milieu. Ces perturbations, elles sont importantes dans les ripisylves, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Déjà, il y a beaucoup d'espèces exotiques envahissantes qui s'y sont développées. Donc on va relever les espèces exotiques envahissantes principales qui sont issues d'une liste de la liste de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, mais qu'on est en train de voir si on peut la compléter avec les autres listes des espèces exotiques envahissantes qui sont déterminées par les autres agences de l'eau. Et puis également, s'il y a des dégradations ou des perturbations du milieu, type des enrochements, des berges qui sont érodées sur des trop grosses parties, des cultures agricoles qui sont venues grignoter au plus près du cours d'eau. Voilà, toutes ces dégradations qui vont faire baisser la note de la qualité de la ripisylve. Enfin, pas la baisser, mais ça ne permettra pas d'augmenter la note en tous les cas. Et puis ensuite, donc, il y a tous ces facteurs qui sont liés à la connectivité qui est très très importante pour tout ce qui est le volet trame bleue. Donc on va étudier la connectivité longitudinale. Est-ce que la ripisylve va se retrouver fragmentée par des infrastructures de transport qui vont venir couper la ripisylve et l'empêcher d'être complètement connectée ? Pour la connectivité transversale, par exemple, on va regarder si les berges sont en pente douce, et donc si ça facilite le déplacement de la plupart des espèces. Ou si les ripisylves sont toujours connectées aux limageurs, lorsqu'il y a des crues, la ripisylve se retrouve inondée, ou alors est-ce qu'elle est complètement déconnectée parce que beaucoup trop élevée par rapport au cours d'eau. Et puis on s'intéresse à la connectivité paysagère. Là, on prend de la hauteur, on s'éloigne, on regarde ça par photographie aérienne et on va regarder si la ripisylve se retrouve connectée à un massif boisé qui n'est pas trop loin ou à un autre milieu aquatique. Elle va, sans être fragmentée par une infrastructure de transport, en tous les cas être corsetée par la présence de plusieurs infrastructures de transport qui vont la corseter en parallèle. Par exemple, le cours d'eau avec la ripisylve, une autoroute, une grosse voie ferrée, forcément, ça va limiter le déplacement des espèces. Donc on a développé plusieurs méthodes de relevé pour que ce soit vraiment adapté à différents contextes. Donc on a la méthode de relevé qu'on encourage, c'est la méthode de relevé en plein, c'est-à-dire que ça consiste à tout regarder sur les 500 mètres en parcourant la rive sylve intégralement. Mais si ce n'est pas possible, si la rive sylve est difficilement pénétrable ou trop en pente ou quoi, là, dans ce cas, on a développé une autre technique, qui est la technique de parcours en point, où là, on va évaluer que la moitié de la rive sylve sur des zones stratégiques en suivant un raisonnement. Voilà, tous les 500 mètres, on s'arrête, on regarde autour de nous de 25 mètres en arrière, en avant, et puis on fait le relevé, puis on reprend 500 mètres sur une distance, on reprend le parcours et on s'arrête pour regarder sur 500 mètres autour de nous. Donc différentes méthodes de relevé, différentes méthodes de saisie aussi, la méthode de saisie sur papier ou sur tablette ou smartphone. Donc ça, c'est une méthode sur tablette ou smartphone qu'on a développée nous-mêmes, qui est pratique, mais qui bénéficie pas d'une ergonomie comme si ça avait été développé sur une application faite pour ça. Mais ce qui est en train de changer, puisqu'on est en train de développer l'application là actuellement. Donc mais il y a deux méthodes de saisie en fonction des préférences. Une notice d'utilisation pour donner bien tous les éléments, avec une aide à la reconnaissance des quelques espèces qu'on demande de reconnaître. Une foire aux questions qui est alimentée régulièrement. Et puis donc là, vous avez un extrait de la fiche de relevé qui permet là sur cette face là de relever tous les éléments qui sont liés au peuplement et à la gestion. C'est juste pour vous donner une idée. Et ensuite, une fois qu'on a fait son relevé, soit sur la méthode, soit sur le grâce au papier ou soit grâce à la méthode en ligne. Si on a rempli sur papier, sur sa petite fiche, quand vous rentrez au bureau, vous reportez les scores que vous avez établis sur votre fiche papier dans un tableau Excel qui va vous archiver l'ensemble de vos données et automatiquement vous procurer une petite analyse un peu primaire de ces données. Donc ça vous donne c'est l'illustration que vous voyez là sur la photo. Donc ce qui est complètement à droite, c'est la note globale de l'IBC Ripisylve sur une rive d'une Ripisylve, donc une note de 39 sur 100, c'est pas terrible, note de 39 sur 100 au global. Et puis ensuite à gauche, vous avez la note de la connectivité de 19 sur 40, ensuite la note sur les perturbations, donc là il y a 2 sur 10, pour le contexte 2 sur 15, et puis pour le peuplement 16 sur 35. Donc avec un code couleur, plus on s'approche du vert foncé, plus la note est bonne pour la biodiversité et la connectivité de la rive sylve, plus on s'approche du rouge, plus la note est faible. Et donc, c'était assez important qu'il y ait des notes différentes par bloc de facteurs, comme je vous expliquais tout à l'heure, parce que ça va permettre aux gestionnaires de savoir où est-ce qu'ils peuvent agir, à quel endroit c'est important, prioritaire d'agir. Si c'est sur le contexte que la note, elle chute considérablement, le gestionnaire, il saura que par rapport à ça, il pourra pas faire grand-chose. C'est pas grave, c'est le contexte, c'est naturel. Nous, on est vraiment sur un indice qui est là pour évaluer la biodiversité, ce qui est favorable à la biodiversité, ce qui ne remplit peut-être pas toutes les missions de ce qui va être favorable pour l'eau, en règle générale, ou pour l'arbre, en règle générale aussi. On est là sur l'accueil de la biodiversité. Et puis, également, dans ce super tableau Excel, vous avez aussi la possibilité de pouvoir comparer les données par tronçon. Donc les tronçons, c'est rive droite, rive gauche. Et ça nous paraissait important aussi pour les gestionnaires de pouvoir comparer sur quand ils gèrent des bassins versants entiers, de pouvoir comparer à quel endroit du bassin versant les notes sont intéressantes, à quel endroit elles le sont moins, pour là encore prioriser sur leur plan de gestion des ripisylves. Et donc là, dans la comparaison, vous avez à la fois les deux rives qui sont représentées. Donc ça, c'est sur l'illustration qui est à droite. Je suis désolée, je ne peux pas trop me retourner et utiliser le petit pointeur. Donc à droite, et là, ça vous montre bien les notes différentes par bloc de facteurs. Et on a également réalisé un guide de préservation des ripisylves pour aller avec l'IBC, qui peut tout à fait être utilisé sans avoir utilisé l'indice au préalable, juste pour savoir les éléments qui peuvent être intéressants pour préserver au mieux la biodiversité de ces milieux. Donc le guide reprend la présentation par facteur, comme je vous l'ai indiqué. Donc par exemple, pour la structure verticale de la végétation, on va expliquer pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs structures verticales de végétation, typiquement en ripisylve, la présence d'hélophytes, la présence d'arbustes, d'une végétation de hauteur moyenne, et puis d'arbres de Auger. Pour quelles espèces ça va être intéressant? Quels sont les objectifs à atteindre pour améliorer la préservation de la biodiversité, donc pour augmenter la note, quels moyens on peut mettre en œuvre pour y parvenir, avec des exemples, des cas concrets, des retours d'expérience, de gestionnaires, et puis des éléments un peu plus FNE pour favoriser la biodiversité encore plus. Et ensuite, les suites du projet, c'est ce que je fais maintenant, c'est-à-dire j'essaye de diffuser au maximum l'existence de cet indice de biodiversité et de connectivité des ripisylves, de tout faire pour le mettre à disposition. Alors ça, c'est fait intégralement. Hein. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est sur notre site internet. Tous les éléments sont accessibles gratuitement. Tout le monde peut utiliser l'IBC ripisylve. Encore faut-il avoir envie d'évaluer la biodiversité d'une ripisylve. Et on a aussi un objectif d'adaptation de l'outil. C'est un outil qui n'est pas figé. La fiche de relevé, elle peut être amenée à évoluer en fonction des retours d'expérience. Si on se rend compte que les gestionnaires, finalement, trouvent que il y a peut-être des facteurs ou des scores qui ne sont pas exactement ce qu'ils attendaient, on peut retoucher les choses à la marge. Et notamment, pour la fiche de relevé, contrairement à l'IBP, on n'a pas fait une fiche de relevé spécifique à la région méditerranéenne, parce que notre outil a vocation à s'appliquer partout en France, mais il y a quand même une spécificité de la région méditerranéenne où vous avez des arbres qui vont peut-être atteindre des grosseurs moins importantes, parce que c'est le milieu est un peu plus rude, et ça, il y aurait peut-être un tout petit ajustement à faire là-dessus, mais j'ai échangé avec ma collègue de FNE, de FNE PACA, qui pourrait voir un intérêt à travailler à cette adaptation. Alors pourquoi pas en partenariat avec le CRPF de la région, je ne sais, mais voilà, faire évoluer la foire aux questions, la photothèque, on crée des outils pédagogiques, et puis comme je vous le disais, on réalise une application en ce moment qui sera normalement disponible à partir de septembre, et qui va pouvoir constituer et abreuver la base de données collaborative et cartographique de l'évaluation de ces ripisylves. On souhaiterait tout centraliser pour pouvoir enregistrer l'ensemble des relevés qui vont être faits et avoir une vision un petit peu plus exhaustive de la qualité de ces milieux sur notre territoire. Voilà, donc vous avez le lien du site internet où vous retrouverez tous ces outils, vous retrouverez aussi les explications sur le projet. Vous avez mon adresse internet, vous avez mon adresse mail, et je suis à disposition pour vos questions. Et je vous remercie de votre attention.